Nous sommes à Denman Island, cette île de la Colombie-Britannique, pour parler avec deux camarades québécois qui vivent ici depuis plusieurs années. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bonjour, mon nom c'est Marc. Ça fait 14 ans que j'habite sur Denman Island.
Salut, moi c'est Carl. Ça fait un bout ici, à peu près 18 ans. J'ai déménagé au BC.
OK. Au Québec, où vous en étiez par rapport à ce que vous faites ici, par exemple?
Je suis arrivé ici en 1993, 3 ans après la crise, ce qu'ils appelaient la crise d'Oka, en pensant que j'avais comme perdu beaucoup d'espoir avec la population des Blancs, des Québécois, pour travailler avec les gens de la terre, les Mohawks dans ce temps-là. Puis je voulais tout le temps revenir en Colombie-Britannique. Alors, c'est la raison principale que je suis venu en Colombie-Britannique, c'est pour vivre ici, parce que j'adore le climat, sur la côte ouest, et commencer à travailler avec les gens de la place pour essayer de vivre d'une autre façon, d'une façon plus saine et plus sécure pour présentement à court, moyen et long terme.
C'est à peu près. C'est un peu similaire dans le sens. Pour moi, j'étais déjà ici, j'étais arrivé en 89, fait que durant la crise de l'invasion de Canasédégué, j'étais déjà ici. Je faisais mes affaires. Puis, pour moi, c'était plus. J'avais besoin de. J'étais à Montréal avant de venir ici, puis j'étais comme tanné de la party scene. Tout le monde faisait. C'était un gros party à Montréal tout le temps. Puis. Je voulais retourner en campagne, vivre en campagne. Puis, le climat m'a attiré beaucoup. Puis j'ai rencontré des bons camarades ici, des anarchistes. On était créatifs ensemble. Puis je trouvais que j'avais plus d'affinité avec les gens ici, souvent, en termes de parler de la terre, parler des autochtones de la colonie, l'invasion, tout ça, de l'histoire. Je me sentais plus créatif au BC quand je suis venu ici. Puis, étudier en anglais. Étudier les plantes et l'histoire et tout ça. Je trouvais ça plus ouvert, plus. Il y avait plus de possibilités. Fait que ça fait un bout de chute, hein. Je suis resté ici, puis j'aime ça.
Okay. Ça vient d'où le fait que vous évoluez dans le mouvement anarchiste?
À l'âge de 12-13 ans, quand je suis rentré, commencé à l'école secondaire, j'ai fait une prise de conscience de. Par rapport à la société en général. Puis l'école, la grosse polyvalente, l'école publique, m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à la situation que nous sommes tous. Comme cette école, la polyvalente Massivanier de Cowansville, il y avait 2000 étudiants de la commission scolaire catholique, puis il y avait 2000 étudiants de commission scolaire protestante. On était 4000 étudiants, 2000 anglais, 2000 français. C'était une énorme manufacture. Et je me sentais comme un mouton ou un robot ou un esclave. Dans le fond de mon cœur, je le savais que j'étais pas fait pour vivre comme ça. Et à l'âge de 15-16 ans, j'ai rejoint le mouvement punk. C'est à partir de là que le mouvement anarchiste est arrivé en même temps. Puis mes désirs d'anarchie sont développés à partir de là. Puis à l'âge de 16 ans, pendant l'été, je suis venu sur le pouce en Colombie-Britannique. J'ai complètement tombé en amour avec la côte ouest, surtout l'île de Vancouver, Tofino. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de touristes. C'était vraiment une petite ville de pêcheurs, puis avec les Indiens, puis les pêcheurs blancs. C'était vraiment différent que ce que c'est aujourd'hui. Et je suis retourné au Québec pour finir mon école, début de l'école 79-80, la saison. Puis au bout de 3 semaines, j'ai abandonné l'école parce que j'étais plus capable. Surtout après avoir passé 3 semaines, 1 mois sur la côte ouest, dans la nature, une place où les gens avaient un style de vie un peu plus libre, plus ouvert. Quand je suis revenu au Québec, je me sentais vraiment en prison. Alors, j'ai quitté l'école. Puis je suis devenu vraiment, ça m'a confirmé que j'étais comme un sympathisant du mouvement anarchiste. Les choses se sont clarifiées depuis ce temps-là.
Ça voulait dire quoi, être en prison?
Se sentir comme en prison.
Ben, je me sentais que j'avais aucun contrôle sur ma vie quotidienne. Et même mes pensées, mes désirs. L'école, c'est un endroit qui m'empêchait de développer ma propre créativité, mon imagination, et de vivre libre, de penser libre par moi-même. C'était vraiment, comme on a tous passé par là, les cours magistrales avec un horaire rigide, avec la cloche. Puis, alors, je me sentais comme presque tout le temps, même la fin de semaine, j'avais des ordres, je me faisais quoi dire par rapport au programme de l'école. Donc j'étais comme un prisonnier. Il y avait des gens qui étaient toujours en contrôle sur ma vie.
Ouais, en termes de cheminement, qu'est-ce qui m'a amené vers l'anarchisme? C'est un peu similaire dans le sens de l'école. C'était vraiment une expérience formative qui m'a comme. C'est un crash course, comme il dit, sur le système de la domination. Puis c'était vraiment le feeling que, OK, j'étais dans une famille nucléaire, j'ai grandi. Maintenant, je me fais placer dans une institution pour devenir un travailleur. Puis après ça, je me fais crisser dans le monde du travail avec mon petit chapeau noir sur de graduation. Puis je me fais, tu sais, va te chercher une carrière, une femme, un petit chien, puis va faire ta vie tout seul. Tu sais. C'était vraiment un feeling comme les Sex Pistols disaient, tu sais, no future. C'était comme pas mal clair quand j'avais 15-16 ans. C'était comme wow, ce monde-là, rien m'offrait. C'était un gros tas de marde qu'il faut que je mange le reste de ma vie. Fait que. C'est un peu ça qui est comme une révolte individuelle quand j'avais 15-16 ans. C'était comme non, j'ai pas le goût. Le travail salarial, l'esclavage salarial, l'école, tout ce qui m'a offert, les diplômes, la petite carrière puis la petite famille, c'était vraiment pas ce que je voulais, tu sais, dans le fond de moi-même. Puis mais dans ce temps-là, c'était plus comme une révolte individuelle dans le sens, c'était comme fuck the world, tu sais, le monde sont cons. Puis j'étais jeune et c'était le trip punk, tu sais, c'était comme. Puis, je suis venu en 1986 au BC. J'ai rencontré une couple d'anarchistes à Vancouver. Et par hasard, je cueillais des fruits. Je me suis fait. J'avais besoin d'un chèque EBS à Vancouver. Fait que je me suis fait orienter vers des gens qui pouvaient m'aider, peut-être avoir une adresse pour avoir un chèque. Puis, j'ai rencontré des gens que je suis encore ami avec. Bon, il y avait un magazine à Vancouver qui s'appelait No Picnic. Puis, m'ont donné des copies de Insurrection par Jane Vere en Angleterre avec des écrits de Bonanno. Puis ça m'a parti sur une traque de commencer à étudier ça, voir de qu'est-ce que les gens ont fait dans le passé. Puis une fois que j'ai lu l'histoire des révoltes populaires, des insurrections anarchistes et tout ça m'a fait réaliser que oui, on peut faire les choses ensemble. On peut actuellement, je suis pas tout seul dans mon coin à être en crise, on peut actuellement se mettre ensemble puis commencer à créer nos vies, puis à attaquer le pouvoir. Puis, fait que j'ai été dans une longue période qu'on pourrait appeler d'études, whatever. Je suis retourné à l'école, mais autodidacte, puis étudier l'histoire, puis les choses ont commencé à faire du sens, d'où on vient, qu'est-ce que c'est la civilisation, la société autoritaire, l'État, le marché, tout ça. J'ai comme mis les choses en place, plus ou moins, pour. J'ai fait mon propre framework, whatever, pour comprendre les choses, puis. Là, à peu près 8 ans, quelque chose, vers la fin des années 90, moi puis mon chum Sean, on a décidé de connecter avec d'autres anarchistes. Parce qu'après 5-6 ans d'étudier, ben, t'es comme, ah, qu'est-ce qu'on fait là? C'est sûr qu'on faisait des petites choses, des petites actions, des posters. Hein. Je fais des campagnes de faire des posters anti-autoritaires avec des événements pertinents qui arrivaient. Puis, par rapport au, disons, en 92, j'ai fait des posters pour supporter les. Les les émeutiers de Los Angeles en 92, puis toutes sortes d'affaires, anyway. Mais vraiment, à la fin des années 90, c'était comme, OK, j'ai besoin de rencontrer d'autres rebelles. Fait qu'on a commencé en 2001, on a commencé à aller à des manifestations qui opposaient la globalisation, le libre-échange, au BC. Puis on a commencé à rencontrer d'autres anarchistes. Puis en 2002, on a commencé à faire des gatherings, des rassemblements anarchistes sur Dunman Island, où est-ce qu'on reste. Puis ça a vraiment été bien, parce qu'on s'est retrouvé à rencontrer beaucoup de gens qui sont devenus des amis, des compagnons, des complices dans notre libération. Fait que c'est un bon. Je suis content de ce qui est arrivé, hein, c'est le fun.
Comment ça se vit pour vous, l'anarchisme au BC?
Je peux parler un peu juste par rapport à, pour moi, le mouvement ou les gens qui se définissent comme anarchistes, vraiment ça a commencé il y a 5-6 ans, en termes de faire des choses socialement, collectivement. Puis ça a sorti pour moi, c'est venu des gatherings qu'on a fait, des rassemblements, des rencontres. On trouvait des gens avec qui on avait des affinités théoriques et personnelles. Et on a commencé à faire des projets, toutes sortes de différents projets, de publications, de magazines, d'alliances. Pour moi, en général, dès le début, depuis 2002 à peu près, j'ai commencé à focusser sur les alliances avec les Autochtones au BC. Parce que j'ai réalisé, ben, dans mon étude de la civilisation, j'ai réalisé que beaucoup de cultures autochtones sont anarchistes, dans le sens de la façon qu'ils s'organisent. C'est basé sur le face-à-face, puis tout le monde a leur mot à dire. Il n'y a pas de chef qui dit aux autres quoi faire. On est tous égaux, comme un chum, il dit, un chum autochtone. Puis tout le monde a leur mot à dire. Fait que je trouvais que, en termes de nombre et de culture et de gens, les Indiens étaient assez intéressants pour commencer à apprendre comment la résistance peut se faire en collectif, basée sur une vraie culture, pas seulement sur des théories de livres et de choses que les gens ont fait dans le passé, mais dans le présent. Puis j'ai comme. Il y a des gens qui me définissent comme ah, t'es anti-civilisationnel ou t'es un anarchiste vert ou tout ça, mais j'aime pas vraiment les définitions parce que c'est comme pour moi, on est des êtres humains sur la planète, puis on boit de l'eau à tous les jours, on mange de la bouffe, puis on a une relation directe, quotidienne avec la Terre, avec les autres relations, comme les Indiens disent, avec l'eau, la bouffe, les arbres, le bois de chauffage, puis les maisons qu'on vit dedans. Fait que tout de suite, j'ai été rencontrer des Autochtones, puis particulièrement d'un camp dans les montagnes, la chaîne côtière. Il y a un camp de réoccupation qui est établi depuis 7 ans, depuis le mois de mai 2000. Puis le camp a été établi par des membres de la nation Stadium, au nord de Whistler. Les gens doivent savoir où Whistler c'est, le gros Disneyland du BC, où est-ce que les gens vont skier. Le fait que ces gens-là réoccupent leur terre, qui est une forme d'insurrection, c'est l'action directe. Et tout est supporté, le projet est supporté par des choses volontaires, par des levées de fonds volontaires. On a amené des outils, de la bouffe, de l'argent. Puis c'est un gros processus d'apprentissage, je trouve, pour reconnecter avec la terre et comprendre les premières cultures qui étaient ici. Les gens de la Terre. Puis ça, je diverge un peu pas mal sur mon expérience avec les Autochtones, mais je sépare pas vraiment ça du mouvement anarchiste. Je veux dire, on est spécifiquement anarchiste d'une tradition européenne, mais l'anarchiste, pour moi, c'est pas seulement les livres de Bakounine puis la tradition européenne, c'est plein de peuples sur la planète qui ont pratiqué l'anarchisme de leur propre façon depuis longtemps. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir tout ce côté-là d'une culture anarchiste ouverte pour moi, pour explorer, puis apprendre. Puis Il y a l'autre côté aussi de notre gang, comme on pourrait dire, nos groupes d'affinités, nos amitiés, qui sont spécifiquement anarchistes de la tradition européenne. Puis on a fait, whatever, on se met ensemble, puis on parle, puis on fait des petits projets, que ce soit urbain, en ville, des choses avec présenter des vidéos, des films. Attaquer la police ou whatever, différentes actions au courant des années qui se sont formées. Puis ce que j'aime, ce que je suis content, c'est que notre groupe, on focus beaucoup. On a comme un ami qui essaie de briser ça en partie, puis pour simplifier ça, puis il dit, bon, ben, ce qu'on veut vraiment faire, c'est une approche indirectionnelle, une approche basée sur la subsistance, aller chercher nos besoins matériaux, avoir une autonomie alimentaire basé sur la terre. Puis ça, c'est une exploration qu'on est en train de commencer avec la chasse, la pêche, la cueillette, les jardins, les vergers. Puis c'est juste, ça commence tranquillement, c'est lent, mais c'est normal. On grandit tous en allant au magasin, puis en achetant notre bouffe au magasin. Fait que ça va prendre des années d'aller vers là, mais principalement, comme mon chum essaie de dire, c'était une approche indirectionnelle. Un focus sur la subsistance puis la solidarité avec les autochtones. Puis on dirait que c'est ça qui se forme tranquillement, ces trois points-là. C'est un peu plus vaste que ça, mais on dirait que notre groupe. Puis je vois aussi au BC, il y a beaucoup de gens qui ont la même approche à Victoria, à Vancouver. J'ai rencontré à travers les années des anarchistes de Vancouver qui sont autochtones eux-mêmes, Anishinaabe ou différents backgrounds, qui sont spécifiquement anarchistes, anti-étatiques, indirectionnaires. Fait que c'est vraiment excitant, hein. C'est le fun. Beaucoup de choses à venir, puis on a pas mal de choses dans notre bagage, hein, du passé. On a commencé, puis j'ai l'impression que ça va vers quelque chose, hein. Ça, quelque chose qui se développe.
Mais pour moi, c'est comme Carly dit, l'alliance avec les autochtones personnellement, m'ont fait réaliser qu'on était tous pareils au sens chaque être humain veut vivre libre et avoir le contrôle sur sa vie quotidienne. Et les affinités que j'ai avec ces gens-là, c'est vraiment solide dans le sens que ça devient des amis, c'est plus des autochtones, des Chouchouas, ou des Stakliums, ou des Nooshanas, c'est George, puis c'est Henry, puis c'est Mike, puis Harney, c'est des amis, puis c'est la façon que je vis l'anarchie au BC, c'est une société d'amis. Il y a dans chaque groupe d'amis à travers le monde, même dans les amis, dans les groupes chrétiens ou différents groupes de gens, c'est rare qu'un leader ou un chef. Alors, c'est une société d'amis, c'est ce que j'essaie de créer. Et de vivre avec la terre, au lieu d'aller ramasser les choses dans les dumpsters en ville, puis les poubelles des magasins de bouffe industrielle. J'aime mieux cultiver ma nourriture biologiquement. Et le problème, comme partout au Canada et à travers le monde, c'est l'accès à la terre. En tant que blanc, j'ai pas de titre, aucun titre sur un mètre carré dans ce pays qu'on appelle le Canada, à moins que je l'achète. Mais les terres en Colombie-Britannique, comme partout, ben, surtout la côte ouest, les prix sont rendus beaucoup trop hauts. Puis personnellement, j'ai pas vraiment le goût d'acheter un morceau de terrain, même si j'aurais de l'argent, parce que c'est des terres occupées, c'est des terres volées, il n'y a aucun traité ici. Alors, techniquement, c'est encore la terre autochtone. C'est ça, c'est de vivre plus proche de la nature et avec la nature. Parce qu'on vient, on appartient à la terre ne nous appartient pas.
Puis comment ça se vit Denman Island, l'île de Denman, dans ce contexte-là?
Ah, pour moi, ça a été ma maison, my home, la place où est-ce que j'ai vécu les dernières 18 années. Puis ça m'a vraiment aidé de pouvoir être dans une place tranquille, pouvoir apprendre à jardiner, apprendre sur les plantes médicinales, apprendre sur juste les saisons, la température, les choses, puis commencer à. Puis je me suis assis aussi pendant un bout, les hivers pluvieux, à étudier l'histoire et les critiques de civilisation, ces choses-là. Fait que pour moi, ça a été très bien de vivre ici pour mon cheminement, whatever, spirituel, émotionnel, mental, intellectuel. Puis socialement, c'est un peu difficile parce que c'est partout pareil, comme en campagne ou en ville. Il y a énormément d'aliénation, de dépression, d'alcoolisme, de drogue et de juste de petites chicanes entre groupes, puis entre amis, puis tu sais, c'est partout, voilà, c'est la petite vie, comme on dit. Mais ça, c'est partout pareil, que ce soit sur réserve ou en ville ou sur Denman. C'est un peu difficile, c'est un peu isolant des fois. J'ai passé beaucoup de temps isolé sur Denman, à faire ma propre affaire. Puis c'est pour ça que, dans la fin des années 90, j'ai commencé à reach out, à essayer de trouver du monde qui ont les mêmes, qui ont des affinités avec, qui ont les mêmes désirs, puis qui ont une espèce de un esprit insurgent, on la veut, qui veulent plus que ce qu'il y a, puis que c'est possible actuellement de créer quelque chose d'autre et de détruire ce qui nous empêche de créer. Fait que les 6 dernières années, je peux dire, ça a été très bien. Je suis prêt à déménager, je vais bientôt déménager d'ici, peut-être permanent, peut-être temporairement, mais je vais aller dans les montagnes. Où est-ce que plus ça m'offrait pour l'instant en termes de subsistance et d'action, de différentes choses. Mais Denman, c'est intéressant parce que depuis qu'on a commencé les rassemblements, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à venir visiter, puis à voir si est-ce que c'est possible de former une concentration, si tu veux, anarchiste, ou est-ce que actuellement il y a assez de monde pour faire des choses. Au lieu d'être 5, 6 personnes, on pourrait être 14, 15, 25. Puis il y a plusieurs projets. Il y a justement, en parlant de projets anarchistes sur Denman, on a une radio pirate qui est en onde depuis 2 ans et demi, qui a été vraiment, on a eu vraiment un bon impétus, un bon impact sur la communauté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu beaucoup d'aide de Ron Sakalski, qui a déménagé ici, qui est un fait public et connu, mais je le considère comme un elder, un doyen.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais le définir ou juste en parler quelque peu?
Ron, c'est un anarchiste qui vient des États-Unis, qui a entendu parler de Denman à travers des écrits surréalistes qui avaient été publiés, qui avait un écrit surréaliste qui a été traduit du roumain en anglais par Doug Emery de Montréal, puis qui a été publié dans un magazine de Denman. Puis Ron était aux États-Unis, il a trouvé une copie de l'article surréaliste en anglais. Il a recherché d'où c'est venu. Il a trouvé le nom du magazine, Minus Tide, qui venait de Denman. Puis là, il était tout de suite intéressé à venir visiter sur Denman. Fait qu'il a déménagé ici. Puis Ron, définitivement, il se définit comme anarchiste. Il est très intéressé dans le mouvement surréaliste et les théories du rêve et du désir et de l'imagination. Fait que j'ai beaucoup appris sur le côté libertaire du surréalisme à travers Ron. Puis il participait aux États-Unis dans le mouvement de la radio libre, les radios pirates, Micropower, il appelle ça, un petit wattage. Puis il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Fait que quand il est arrivé sur l'île, il a tout de suite vu une opportunité, une petite communauté. Il y a beaucoup de gens ici qui sont venus drop out, qui sont venus sortir du système, que ce soit des universitaires, des biologistes d'université ou des gens de la rue de Toronto puis de Vancouver. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour vraiment sortir, puis comme dans les années 60, drop out, prendre un break de l'esclavage salarial, la rat race, comme ils appellent ça. Puis, fait qu'il y a quand même un esprit assez rebelle, mais moins offensif, plus comme pacifiste et tout ça. Mais la radio a amené, je trouve, le projet de radio pirate a vraiment amené un feeling d'autonomie et d'identité que, ouais, on peut le faire en gang, puis on n'a pas besoin de demander au gouvernement. Puis je trouve que c'est un vraiment bon projet. On a différents shows. Il y a à peu près 29 individus qui participent à mettre des shows de radio. Puis ça veut dire qu'il y a à peu près 21 programmes, je pense, 21 shows. Puis là-dessus, il y en a peut-être 6 qui sont spécifiquement anarchistes, 5-6. Hein. Fait que c'est le fun. Ça amène un certain esprit sur l'île, un dialogue ou un certain langage aussi, une certaine langue pour utiliser. pour commencer à analyser la situation qu'on est puis comment on peut s'en sortir. Fait que je trouve que c'est un des projets que j'adore sur Danman. Puis ça a vraiment aidé, je trouve, pour faire notre présence. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, on a comme une présence anarchiste sur Danman qui est reconnue par les gens. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de libéralisme ici, fait qu'ils nous voient comme, oh, on fait partie de la communauté, tu sais, on a des développeurs, des anarchistes, des païennes,
Les sorcières.
des sorcières qui vénèrent la déesse, puis on a toutes les sortes, tu sais, on a une communauté diverse avec les anarchistes maintenant. D'un point de vue libéral, c'est bien, parce qu'on amène de la diversité sur la communauté, fait que c'est un peu drôle, mais c'est bien, c'est intéressant, une petite communauté. Il y a 1200 personnes qui vivent ici sur une île de 21 km de long, par peut-être 5 km de large au plus large. Fait que c'est intéressant, c'est une petite échelle face à face, tout le monde se connaît. Fait que, il y a plus, je trouve, de possibilités de dialogue qu'en ville, souvent. En ville, ça, tu te retrouves dans des gangs qui sont déjà convaincus ou qui sont déjà, tu sais, dans la même gang ici, tu te retrouves à parler à des bouddhistes, puis à des sortes de gens qui sont comme, vu que tu les vois tous les jours, ben c'est comme une certaine forme de respect et de communication qui s'établit. Fait que c'est assez intéressant, mais je suis comme pas désappointé, j'avais aucune attente, mais après 6 ans de parler des idées anarchistes, de voir les possibilités de tout ça, il y a pas grand-chose dans la population locale. Il n'y a pas grand monde qui se sont retrouvés à dire, OK, ben c'est vrai, on pourrait peut-être se révolter puis commencer à faire bouger les choses. Fait qu'on se retrouve souvent que les gens avec qui on fait les choses ici, c'est des gens de l'extérieur de l'île qui viennent ici. Soit il y en a une couple d'amis qui ont déménagé maintenant sur l'île. Puis il y a beaucoup de gens de Vancouver, Victoria, qui viennent visiter périodiquement. Puis on jardine ensemble, on a des discussions, on écrit des articles, on organise des choses en ville ensemble. Puis moi ou d'autres amis, on s'en va en ville les aider dans leurs projets, puis eux, ils viennent nous aider dans nos projets. Fait que c'est positif. C'est une belle place à vivre.
Qu'est-ce que vous organisez par exemple en ville ensemble?
En général, le projet majeur qui a été organisé à partir de Vancouver, mais qu'on a participé dedans, c'était la Journée internationale contre la brutalité policière, mais à Vancouver, le 15 mars. Mais le 15 mars, on a appelé ça le Day of Action Against Cops, une journée d'action contre la police. Ça, au lieu de, c'est pas nécessairement contre la brutalité policière qu'on est, mais contre la police tout court. Fait que ça a été positif, ça a été le fun. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a appris, des conneries qui ont été faites, puis je sais pas, tactiquement, on apprend. Pour moi, c'est du training, d'entraînement. Tu vois quelque chose à faire, tu l'essayes, tu fais des erreurs, tu apprends, tu recommences. Puis tu continues, tu sais. Puis ça a été mettre la théorie en pratique, puis de voir d'où ça va. Puis à chaque année, ça change. On discute, on est autocritique. À part ça, d'autres projets, il y a beaucoup de projets reliés aux Autochtones, la solidarité avec les Autochtones, comme il y a des amis en ville qui sont vraiment impliqués dans le support de John Graham, qui était impliqué avec AIM, et puis maintenant qui est en train de se faire frame up pour
American Indian Movement.
L'American Indian Movement des États-Unis, puis au Canada. Puis il y a des gens, en ce moment, John Graham est en prison, et puis il va se faire extrader aux États-Unis pour meurtre. Il se fait accuser du meurtre d'un Anamiaquash par le FBI. Puis apparemment, ben, ça, ben là, c'est eux qui ont tué un nommé, mais ils blâment sur John. Puis fait que j'ai des amis ils travaillent vraiment fort là-dessus. Puis ils ont présenté des vidéos à Vancouver, à Victoria, sur John Graham. Puis on a fait une vidéo night à Courtenay, sur l'île de Vancouver, avec d'autres anarchistes, puis d'autres gens qui sont venus. Puis on va en faire cet automne sur les îles ici, Hornby-Dolmen, pour que les gens, pour informer les gens sur ce qui arrive à John Graham. Puis il y a un projet qui est en train de se former maintenant, c'est par rapport à John Graham, mais par rapport à la Terre aussi. Il y avait un moratorium pendant 7 ans de temps sur le minage d'uranium. Ça se dit minage?
Les mines
L'extraction,
d'uranium,
sur les
l'extraction d'uranium.
l'extraction d'uranium. Puis en ce moment, j'ai des amis. John Graham, il a commencé sa lutte dans les années 70 à Pine Ridge avec l'American Indian Movement. Puis une des grosses choses à Pine Ridge, c'était les mines d'uranium. Le gros stand-off qu'il y a eu là-bas, c'était par rapport au chef de bande qui vendait des. Il donnait la terre, la réserve au sud du Dakota, de la côte sud pour des mines d'uranium. Puis dans les années 80, John Graham s'est battu contre les mines d'uranium au Saskatchewan avec les Autochtones, les Blancs. Puis il a passé les 10 dernières années, 15 dernières années à élever sa famille au Yukon. Puis il y a une place, il s'est fait visiter par le FBI. Puis on dit, puis justement, juste avant ça, je veux dire qu'il a participé à amener un moratorium sur l'extraction d'uranium au BC. Au même moment où est-ce que le prix d'uranium a monté, le FBI l'ont visité, puis on dit, OK, tu collabores avec nous pour trouver le meurtrier dans la Namiroquash ou on te le met sur ton dos, puis tu vas te faire accuser. Il a refusé, comme un bon guerrier. Ils ont envoyé chier, ils ont crissé dehors de chez eux. Ils sont revenus deux autres fois, puis ils ont refusé, comme ils ont fait la même chose à Leonard Peltier. Puis il s'est fait frame up, il s'est fait arrêter à Vancouver. Mais ce qu'on veut, notre approche, la solidarité, c'est pas d'aider quelqu'un seulement en prison, qui a des livres et des lettres et c'est du support légal, mais c'est de continuer la lutte. Pourquoi ces gens-là sont en prison? Fait que, en ce moment, on est en train de former un projet d'études en premier, puis la recherche sur l'industrie de l'uranium. Et je pense qu'il y a des choses qui vont sortir de là. On va commencer à s'occuper de ça un peu, puis voir ce qui est possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça, l'uranium dans leur cour arrière. Fait qu'il y a des possibilités d'une grande bataille qui s'en vient contre les mines d'uranium. Fait que ça, c'est un des projets avec des amis de la ville.
Pourquoi faut combattre l'uranium?
Ben. On peut dire symboliquement, l'uranium, les réacteurs nucléaires, les bombes nucléaires, c'est la base de la société autoritaire, l'énergie et la guerre. Pour moi, c'est les pointes, les industries de pointe de la domestication et de la mort, si tu veux voir ça, la mort de la vie autonome, de la vie sauvage. Puis, avec l'uranium puis la biotechnologie, parce qu'il y a une grosse industrie biotechnologique au Canada, mais au BC, ça a l'air d'être assez gros. C'est assez caché, assez secret, mais c'est complètement subventionné par le gouvernement fédéral. Ils sont en train de jouer avec les gènes des poissons, des saumons, avec tout ce que tu penses, puis c'est énorme. Fait que moi, ce que j'aimerais faire, c'est dans les prochaines années, relier ces deux choses-là, parce que c'est la même chose. Ils nous promettent un nouveau monde, un brave new world d'abondance et de joie. Avec l'industrie nucléaire et avec l'industrie biotechnologique, fait que il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça, les attaquer, les dénoncer, les exposer. Fait que c'est comme les choses, on dirait, s'engagent, s'engrainent, une après l'autre, tu sais, en supportant John Graham, on se retrouve à faire face à l'industrie de l'uranium, puis on se retrouve à se battre sur la terre contre les stations de ski comme le camp autochtone de réoccupation à Choutika, ça s'appelle, qui veut dire l'esprit de l'hiver. C'est à 4000 pieds d'altitude dans les montagnes, la chaîne côtière. Le camp a été établi pour arrêter une station de ski, parce qu'au BC, un des gros projets de développement est relié. À cause que l'industrie la forestière, l'industrie forestière et l'industrie de la pêche est descendue, il y a beaucoup moins de poissons qu'avant, puis le prix du bois a descendu, puis tout ça. Le gros focus de l'économie maintenant, c'est le tourisme. Pour établir une industrie touristique, ils veulent c'est quoi un resort en français? Des stations de ski et des stations de plein air à l'année longue à travers le BC. Il y en a genre 45 qui veulent se construire right now. Fait que mes amis autochtones, ils ont établi un camp, là, 7 ans, pour arrêter une de ces stations de ski qui est un demi-milliard de dollars d'investissement, puis d'être une place sauvage, chose qui n'a jamais eu de développement, et qui est actuellement une place sacrée pour des quêtes visionnaires, des Indiens, puis des plantes médicinales. Ça fait que, on dirait qu'au BC, les batailles contre le marché et l'État se retrouvent beaucoup à faire des batailles contre le développement. Et je pense les mines, ça fait partie de ça. Il y a un énorme renouveau des ouvertures de mines à travers le BC en ce moment, incroyable. Juste l'autre bord de l'eau, l'autre bord de Denman, sur l'île de Vancouver, il y a une mine de charbon qui va s'ouvrir en 2009. Une énorme mine de charbon. La même compagnie qui va ouvrir les mines de charbon est en train de construire une génératrice d'électricité au charbon dans le sud du BC. Fait qu'il y a des gens là-bas qui se battent contre ça. Puis on va voir ce qu'on peut faire ici. Parce qu'il n'y a pas seulement la mine de charbon, il y a un casino qui est ouvert juste à 5 km de Denman, sur l'île de Vancouver. un casino, un nouveau développement de 25 000 personnes avec une université, un centre d'achat, des hôtels, une marina privée. Ouais, le développement ici, c'est le boom économique, dans le sens, c'est la ruée vers l'or, revisité d'une autre façon, mais principalement basé sur le tourisme, le développement, les hôtels, le développement en général. Fait que on a déjà commencé un peu à travailler avec certains gens ici par rapport à ça, sur Denman. Fait que.
Ce qui arrive en Colombie-Britannique, ce qui arrive en Colombie-Britannique depuis les 3 dernières années, c'est que le développement a son expansion la plus grande qu'il y a jamais eu en Colombie-Britannique. Puis une des raisons principales, c'est comme Carl dit, c'est l'exploitation minière. Forestière, ça c'est déjà fait et en bonne route depuis longtemps. Et les Olympiques d'hiver de l'an 2010. Les Olympiques sont basés sur. Ça n'a rien à voir avec les sports, c'est une histoire de développement pour l'industrie du tourisme et l'industrie des centres de ski, des centres de plein air à l'année longue. Alors, avec les Olympiques de l'an 2010, le gouvernement subventionne des milliards de dollars pour construire une plus grande autoroute qui détruise la nature partout. Et c'est l'expansion industrielle et touristique qui se répand à travers le pays, l'intérieur de la Colombie-Britannique. C'est vraiment dégueulasse. Parce que ça fait monter les prix de la terre 10-15 fois de ce qu'il y avait. Les prix de la terre au Colombie-Britannique sont à peu près 10 à 15 fois plus chers qu'il y a 10 ans. Et c'est seulement les super riches qui peuvent déménager ici. C'est vraiment un impact extrêmement négatif sur la terre, sur le territoire, puis sur tous et chacun à long terme. C'est un désastre. Puis il y a beaucoup de gens qui s'opposent aux Olympiques. Les environnementalistes, les Indiens, les Autochtones, puis les anarchistes. Puis il y a un groupe qui est très actif à Vancouver qui s'appelle APC, Anti-Poverty Committee. Eux, ils se battent avec au niveau du logement à Vancouver, ils perdent le logement à chaque année à cause des gros intérêts immobiliers, achètent des hôtels d'un loyer modique pour développer des condos pour les Olympiques. Puis il y a 5 hôtels très connus dans le temps de Vancouver, en centre-ville de Vancouver, qui étaient là depuis 40-50 ans, qui logeaient les gens à des prix modiques. T'sais. Et présentement, ces hôtels-là ont été évacués, vendus, évacués, puis il y a 500 personnes dans la rue qui étaient là depuis des années. T'sais. Alors, les Olympiques, c'est vraiment une grosse affaire. C'est comme un gros cancer, la façon qu'on voit ça. Qui doivent être mis à terme, qui doivent être arrêtés. T'sais. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec les sports. C'est ça. C'est une histoire d'argent, c'est tout.
Ça va être intéressant de voir la résistance aux Olympiques, comment ça se développe. Il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été faites par rapport à Vancouver avec justement APC. Puis les Autochtones ont fait leurs propres actions. Au mois de mars, ils ont volé le gros drapeau olympique de la place publique à Vancouver. Ils n'ont pas aimé ça, juste le jour avant que le Comité olympique international arrive. Mais je trouve je me suis pas assez impliqué dans un sens contre les Olympiques, dans le sens à commencer à travailler là-dessus. Ouais, pas vraiment travailler, mais avoir du fun là-dessus. Puis à résister les Olympiques. Mais en même temps, depuis 5-6 ans, j'étais à le camp autochtone que je travaille avec. Dans les montagnes, les Olympiques sont sur leur territoire, la Nation Stadium. Whistler, où est-ce que les Olympiques arrivent, c'est au sud du territoire Stadium. Et la station de ski, le Cayouche Ski Resort que les développeurs voulaient mettre en haut, que le camp a arrêté, faisait partie des Olympiques. Ils voulaient vraiment avoir ça construit pour les Olympiques 2010. Ils se sont fait arrêter. Fait que dans le fond, je participe dans la lutte anti-olympique indirectement. Ben, pas mal directement, mais en étant au camp, puis en maintenant, en participant à la maintenance du camp, puis à la fortification, si tu veux, la solidification. Mais je trouve juste un peu flou pour moi. J'ai pas vraiment le goût de travailler avec les groupes activistes de Vancouver. Fait que tranquillement, je veux développer une façon d'approcher ça avec mes amis, puis comment. C'est encore à faire pour moi. Ça s'en vient, là, on a 3 ans. Fait que, on va commencer à travailler là-dessus cet hiver, puis voir ce qu'on peut faire, hein, pour monter l'opposition aux Olympiques. Puis, ça m'étonnerait qu'on soit capable de les arrêter. Hein. Les anarchistes grecs, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu en 2004. Ouais, c'était quelle année? Ça fait 2 ans, je pense, en 2005. Ils ont vraiment essayé fort, les Olympiques, à Athènes. Puis, ils sont quand même arrivés, les Olympiques. Fait que je pense pas qu'il faut être naïf, penser qu'on va les shutdown, mais. En même temps, j'ai des amis indiens qui disent qu'il va pleuvoir tout l'hiver, puis il n'y aura pas de neige à Whistler. Fait qu'il n'y en aura pas de... Tout le monde prie pour la pluie. Fait que si vous écoutez ça, priez pour beaucoup de pluie en 2010 au BC.
En conclusion, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Ajouter, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai un espoir assez grand, qui est de plus en plus fort à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les nouvelles pleines lunes, que il y a assez de gens, avec assez de groupes d'affinités en Colombie-Britannique, qui partagent les mêmes affinités, les mêmes visions de comment vivre autrement que de vivre dans cette société de cage, de prisonniers, d'industriels, militaires. J'ai vraiment espoir que le nombre, c'est pas le nombre, mais c'est la volonté surtout. C'est des groupes assez puissants, des gens en santé, clairs dans leur tête, et qui ont le cœur à la bonne place. Je crois vraiment qu'on va être capable de faire une différence, de faire l'histoire, parce que dans le fond, on l'a fait un peu déjà, mais je veux pas être dans l'histoire comme avec mon nom et tout, là, mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement social anarchiste, autochtone et certains environnementalistes qui commencent à être beaucoup plus radicaux parce qu'ils peuvent voir de plus en plus le lien que le rapport du désastre environnemental avec la politique qui est les militaires et l'industrie. Alors, il y a beaucoup d'environnementalistes qui voulaient rien savoir de la politique avant parce que c'était trop dark, comme ils disent, trop noir, trop sombre. Mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas arrêté, ils ont une idée plus claire, une image plus claire, puis commencent à sympathiser et à comprendre beaucoup plus que ce que les anarchistes en parlent. Là, il y a comme des alliances qui se font, qui vont de court, long, moyen et long terme. Et ça va faire sûrement une différence, éventuellement. Pour que les gens aient plus accès à la terre librement, puis être moins confinés au cachot de la société nord-américaine. Alors pour vraiment vivre nos vies comme on le désire, et en santé, dans une zone sécure, et en environnement sain. Ouais.
Ouais, d'accord que tout ce qu'on fait, chaque chose qu'on peut créer, faire, a une conséquence. Puis faut vraiment voir ça dans ce contexte-là. Parce que souvent on fait des choses, puis on voit pas les effets immédiats. Puis on pense que ah, ça sert à rien de faire ça. Puis on se décourage. Mais je peux voir que chaque chose qu'on a essayé depuis des années a eu des conséquences. Et c'est très important de garder ça en tête, de voir ça. Je pense au printemps, j'entendais justement un gars parler de. Ah, j'étais à Vancouver, puis un gars qui parlait de l'autogestion qui arrive en Argentine en ce moment. Puis j'ai réalisé que l'autogestion contemporaine en Argentine vient directement d'une pratique anarchiste des années 10, 1910, 1920, quand les anarchistes espagnols et italiens étaient exilés de l'Europe, mais ils se retrouvaient en Argentine et au Chili. Puis, quand l'économie s'est écroulée en 2001 ou 2002, je sais pas, en Argentine, les gens se sont retrouvés, OK, ben, we're on our own, on est tout seul, là. Le gouvernement prend pas soin de nous, puis les banques, ils nous ont tout volé. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Puis, ils ont regardé dans leur tradition, puis ils ont vu, ben, l'autogestion anarchiste, on a vu la décentralisation, puis ils ont pris leur. Pas vraiment que c'est pas mon but de prendre des usines puis d'aller faire des tires, des pneus d'auto ou des boîtes de carton, mais. La tradition était là. Les gens, quand ils se sont retrouvés face à face, sans le pouvoir qui pouvait intervenir dans leur vie, ils se sont retrouvés à regarder dans le passé, à avoir une tradition. Puis je trouve qu'au BC, même si dans notre vie, on ne va pas avoir un résultat immédiat d'une créer une société anarchiste, ou on met la base d'une alternative. Pas une alternative nécessairement, mais plus on met la base d'une pratique qui peut être utilisé par les gens plus tard, une pratique insurrectionnaire ou une pratique de subsistance, une différente sorte d'approche envers la libération et comment vivre nos vies, comme développer des vies comme nous les entendons, comme nous les concevons. Et puis, fait que je trouve souvent, je me répète ça, que même si je vois pas de résultats directs dans nos vies, puis on fait des petites actions, des petits projets, des affaires, bon, on est en train de mettre une base qui est une autre façon de faire les choses, qu'est-ce que la majorité font. Puis c'est intéressant de voir comment on peut s'influencer les uns les autres. Comme moi, je me sens plus influencé par les Autochtones que j'influence d'autres gens. Au BC, j'apprends plus que j'en apprends aux autres. Fait que c'est intéressant de voir les échanges qui se passent, culturels ou personnels. Puis je trouve que ouais, tout ce qu'on fait vaut la peine. Ça vaut la douleur, comme ils disent, et ça soit des petits projets, des gros projets, des actions, des écrits. Il faut continuer, hein.